Canal Sud 92.2. Bonjour tout le monde. Je m'en vais essayer de vous dérider un petit peu les zygomatiques. Je m'en vais vous causer du Béarnais. Le vrai Henri IV de la lignée des Henri, le plus célèbre, le plus populaire des rois de France. Le Vert-Galant, parlant un jour de son formidable joujou des demoiselles, il prétendit sans rire que jusqu'à l'âge de 40 ans, il avait toujours cru que c'était un os. Fils d'Antoine de Bourbon, qui adorait le bénitier de Calcif, et de Jeanne d'Albret, reine de Navarre, et protestante jusqu'en haut des jarretières, Riton fut roi de France de 1589 à 1610, comme chacun sait. Le Béarnais, à sa naissance, ne ressemblait en rien au fils de Henri II, des petits avortons incapables de soulever eux-mêmes leur biberon. Le papa de sa maman, Jeanne, son papy, bouffi d'orgueil, se serait écrié « Ma brebis a enfanté un lion !» En guise de biberon, il lui avait passé une gousse d'ail sur les labiales et fait goûter un gorgeon de Jurançon. Le petit, alors, en tendant sa coupe, proféra pour la première fois cette courte supplique qu'il adressa si souvent par la suite à ses maîtresses lorsqu'elles lui chatouillaient l'arquebuse. Encore. Il saccagea, dit-on, les tétons de 8 nourrices avant d'en trouver une, enfin, à son goût. Son étonnante carrière amoureuse le prouva assez. C'était un sacré goûteur de tétons. Mouflet, il reçoit une éducation plutôt insolite pour un futur monarque. Il court la campagne en se bigornant avec ses copains, qui sont pas plus nobles que vous et moi. Il déniche des nids de pie, il joue à papa-maman avec les bergères et rentre le soir à la casbah avec des trous pleins son falzard. Il se fait remarquer très vite car parmi tous ses potes, il est le seul à avoir déjà joué du flageolet béarnais. De plus, c'est lui qui pisse le plus loin. Il a vraiment tout pour faire un bon roi. Nommé lieutenant général du royaume en 1560, plus tard, il pouvait passer aisément 18 heures d'affilée sur son cheval, sans en descendre, pour aller s'acheter des clopes. L'ennui, c'est qu'il faisait souvent la même chose avec ses maîtresses. Il n'était pas rare, d'ailleurs, que ces dernières, lassées, partent en quête de Jules plus reposant. Car avant la chasse et la guerre qu'il pratiquait assidûment, le plus favori de ses passe-temps demeurait incontestablement le bilboquet béarnais. Il fut d'abord heureux, puis dérouilla un max avec une flopée de pétasses qui le cocufièrent avec un grand dévouement. La plus célèbre d'entre elles fut Gabrielle d'Estrée, dite la belle Gabi, à laquelle il adressait des bafouilles incandescentes. Annonçant son arrivée pour la semaine suivante, il demandait à sa Gabi de se garder bien d'astiquer son frifri en l'attendant, afin, disait-il, de mieux savourer ses fragrances naturelles. Il s'attacha les poils du cul et dépensa une fortune pour coucher dans son lit Henriette d'Entrague, dite la dévoreuse, qui lui fouettait le résiné avec des décoctions aphrodisiaques et des tartines de gelée royale. Diplomate et rusé, homme de guerre habile, durant son règne, il mit vaillamment le grappin sur la Normandie, l'Auvergne et le Poitou, entre autres. Jugeant que cet éparpillement de provinces faisait un peu désordre. En attendant d'être roi de France, il convole pour la première fois, en juste et pauvre noces, avec Marguerite de Valois, qui va devenir la fameuse reine Margot. Margot, qui, toute jeunette qu'elle était, venait par un beau matin de se faire ravir le berlingot par son propre frère, Henri III. Ils étaient tous deux les mouflets de Catherine de Médicis et de Henri II. Ce qui ne l'empêchait pas, malgré tout, la mignonne, de passer ses après-midi dans le pajot du bel Henri de Guise, dit le balafré. le roi Charles IX, l'autre frelot de Margot, et Catherine Médicis, sa dame, qui tenait le gouvernail de la France, accordaient beaucoup d'importance à ce maréda entre Margot et le jeune Henri, roi de Navarre. Ce dernier, de religion protestante, était censé, par cette union, se rapprocher des catholiques et pourquoi pas cesser de se fricasser la hure avec eux. Ce fut, hélas, une tragique cata. La môme Margot, qui avait le feu aux dentelles pour son guise, détestait ce rusto de Henri de Navarre qui tapait sérieux du saladier. Après une crise de nerfs carabinée, elle se laissa tout de même conduire à Notre-Dame pour le maréda. Sa mère, Catherine, avait d'ailleurs fait frapper pour l'occasion une médaille en or avec les initiales H et M entrelacées. Et une devise en latin gravée sur le bord, « La discorde réunie est éteinte par ce lien ». Il faudra tout de même, lors de la cérémonie, que le roi Charles IX fit un coup de coude dans les côtes de sa frelotte pour lui faire baisser la cafetière en guise d'assentiment, à défaut d'articuler le oui fatidique. Le soir des noces, il semble que le zizi-pampan l'eût emporté tout de même sur la mélancolie. Bien que ce ne fût pas le grand amour entre eux, Margot, d'un ton léger, répondra plus tard au juge ecclésiastique qui lui demandait si le mariage avait été consommé. « Nous étions tous deux, au jour des noces, l'un et l'autre si paillards, qu'il était plus qu'impossible de nous en empêcher. » Quant à Henri, il répondit semblablement de son côté. Jeunes tous les deux et de tempérament gaillard que nous étions, la reine et moi, pouvait-il en être autrement? N'empêche que, hormis les séances d'abricots en folie, Margot avouera bien plus tard, on a été 7 mois couchés ensemble sans s'entreparler. C'était mal barré. Le jour de la funeste Saint-Barthélemy que Catherine fit déclencher par le bras de son taré de fils Charles IX, on étripa joyeusement tous les protestants et les autres qui avaient accompagné le futur Henri IV à son mariage. Ce dernier, qui eut très chaud aux miches ce jour-là, ne dut son salut qu'à sa promesse à Catherine et à Louis de se convertir au catholicisme. Charles IX lui avait laissé le choix. Messe, mort ou Bastille? Des milliers de cadavres s'amoncelaient au tournant de la Seine devant la colline de Chaillot. Henri n'eut aucune hésitation pour abjurer spontanément la foi huguenote, quelques jours après, agenouillée devant l'autel de Notre-Dame. À ses potes qui lui ont dit plus tard « Dis donc, Riquet, tu crois pas que t'as fait un peu fort en te convertissant? Es-tu bien sincère en devenant catho ?» Henri IV répondit goguenard.
Il répondit quoi? Alors, j'attends.
Bah, Paris vaut bien une messe. En fait, malgré son air enjoué, on se courait bien qu'il était mort de trouille. Henri, forcé de rester à la cour au milieu de ses branques, se vit contraint par Catherine, sa belle doche, de faire partie de l'expédition royale menée contre la forteresse calviniste à La Rochelle. On lui demande ni plus ni moins de trucider les siens. Ces derniers, d'ailleurs, n'ignorant pas que Riton n'a abjuré sa foi qu'avec l'épée dans les rognons, demandent même, au-dessus des remparts de la forteresse, des nouvelles de leur roi de Navarre. Henri vise, dira-t-on, l'ennemi, avec son arquebuse à mèche. Mais nul n'est vraiment sûr qu'il l'avait allumé. Il attendit tout de même 1575 pour s'enfuir, reprendre la tête de l'armée huguenote et se rétracter de son abjuration en passant par Tours. Un jour qu'il cavalait au cul d'un cerf dans une partie de chasse dans la forêt de Senlis, il en profita pour mettre les bouts. Il rejoignit tranquillement le Poitou où l'attendaient les troupes calvinistes. En tant que catholique, bien sûr, il n'avait pas été très convaincant. Les hostilités reprennent donc dès 1577. Margot est restée à Paname. Elle ne le rejoindra que plus tard dans le sud-ouest, pour lui adoucir le séjour. Croit-on. Il cassa du catholique à l'Aréole, à Marmande, à Bergerac. Bref, partout où les catholiques avoisinaient les protestants. Jusqu'au jour où le duc d'Anjou, frelot d'Henri III, se casse la margoulette en escaladant le mur d'un couvent de nonnettes. Notre beau Riton de Navarre s'élève alors tout naturellement au rang d'héritier de la couronne. Henri III, nous précise l'auteur de ce bouquin fantastique, Henri III dut quitter son emploi de roi de Pologne pour devenir roi de France en 1574 à la mort de son frelot Charles IX. Les cathos sont alors furibards. Le duc Henri de Guise, dit le Balafré, l'ex-julot de Margot, qui se prétend descendant de Charlemagne et qui, entre parenthèses, ne cracherait pas lui non plus sur la couronne. Le Balafré, dit-on, a juré de faire tapisser sa malle de voyage avec la peau de Henri IV. Tous ces sacs de nœuds débouchent sur ce qu'on va appeler la 8e guerre civile ou guerre des trois Henri. En attendant, notre Henri de Navarre à Coutras fit une belle décoction à Joyeuse, le mignon de Henri III, qui aura vachement chaud, miche, ce jour-là. Mais Henri futur IV n'a pas encore fini de becqueter son pain noir. Le duc de Guise est adoré du peuple. De plus, il ne peut pas encadrer le roi Henri III non plus. Il a presque le cul sur le trône en cette année 1588 où il se voit d'abord déjà roi de Paris. Mais la couronne est à sa portée. Il le sent, il se la voit déjà sur la théière. Le bon Riton a tout de même morflé quelques torgnoles dans le sud-ouest. Les cathos lui en ont fait baver un max, notamment à Cahors où il fut supplié par ses troupes affamées et épuisées de sonner la retraite. « Il ne sortirait de Cahors, leur répondit-il, que mort ou vainqueur, au cas où on aurait douté qu'il avait du poil aux pattes. » Margot, elle, pendant ce temps, faisait sa guerre des amoureux à la cour protestante de Nérac. Henri, qui venait y savourer le repos du guerrier, se laissait gentiment butiner le macaroni par la belle fosseuse, nom sous lequel on désignait Françoise de Montmorency. Cette dernière, dont le réchaud fumait en permanence, n'était autre que la première demoiselle d'honneur de Margot, qui, l'ayant trouvée elle-même à son goût au lit, l'avait généreusement prêtée à son sacré bandeur de mari. Ils avaient fini par s'entendre au moins sur un point. Henri III, lui, de son côté, qui était en train de se casser la gueule de son trône, a fait appel à des détachements étrangers pour conforter son autorité. Et bien sûr, il a provoqué une bérésina monstre. Henri III décarre alors à toute bubure de la capitale, après cette funeste journée des barricades, où l'on s'est copieusement frité l'achetron. À l'heure qu'il est, à l'ATP des rois, il vaut plus un peu de lapin, le troisième Henri. Il n'a plus les moyens d'empêcher le Balafré de Guise de lui piquer le trône encore chaud. Ce dernier pourrait d'autant plus s'en emparer illico qu'il a le Parlement pour sa pomme. Pourtant, orgueilleux comme un pou dans la crinière d'un lion, il minaude, il temporise, il sent qu'il est proche du but, mais il veut se morfaler d'un coup tout le royaume. Avec panache! Tout comme le lièvre de la fable qui avait trop attendu, il va se faire baiser au poteau. Le fragile mais rusé Henri III le convoque au château de Blois pour lui filer, lui dit-on, le secret de sa recette de clafoutis aux griottes. Il fait radicalement étriper le Balafré par les 45 soldats de sa garde personnelle avant même que l'autre n'ait eu le temps de défourailler son cure-dent. Le 30 avril, près de Plessis-les-Tours, pour la première fois depuis 13 ans qu'il s'arrache les couettes dans des batailles incessantes, les deux Henri vont tomber dans les bras l'un de l'autre. Pas pour faire la lutte gréco-romaine, non, pour s'embrasser ou faire semblant. Le peuple, lui, crie
Vive le roi !» Et même « Vive les rois !»
En fait, comme d'habitude, il crie un peu n'importe quoi. Un jour, vive Pétain, le lendemain, vive De Gaulle. Mais ça, c'est une autre histoire encore. La baraka, pour le moment, elle est surtout du côté d'Henri de Navarre. Le matin du 1er août 1589, au camp royal de Saint-Cloud, Henri III, quant à lui, savoure un bol de bouillon tranquillement assis sur sa chaise percée. Il l'ignore, mais c'est son avant-dernière dégustation, car un certain Jacques Clément, moignillon ligueux et mal intentionné, lui fait déguster un méchant coup de l'alliole dans le buffet. Un roi sur son trône, c'est parfois peu de choses. Mais ce petit roi malchanceux, avant de chanceler sur ses talons aiguilles, avait eu suffisamment de choux pour sceller à Plessis-les-Tours l'unité retrouvée du royaume. Henri de Navarre est donc le successeur naturellement désigné, et la ligue là dans le baigneur. Le tout-puissant Philippe II d'Espagne fournit alors un max de Grisby et d'arquebuses au duc de Mayenne, qui est plus ligueux qu'un sang de punaise. Philippe II d'Espagne, qui n'a pas que du jus de betterave dans les castagnettes, rêve de chouraver le trône de France pour sa fille Isabelle, petite-fille de Henri II par sa mère. C'est à la fois merdique et tentant pour Henri. Évidemment, ça coince un peu, car jamais les Espingauds n'ont été aussi puissants. Par contre, ça pourrait être de la chantilly, because une chier de cateaux français, dont Mayenne, ont le traxir de voir les danseurs de flamenco squatter le pays et d'être obligés de briefer du corizo jusqu'à la fin des temps. Le 4 août 1589, à Saint-Cloud, Henri fait écho à cette réaction patriotique du peuple qui n'a l'air d'attendre que lui. Il dit à ses concitoyens « Mes chers petits peloteurs de chapelet, la religion romaine, vous vous gourez bien que pour moi, ça vaut pas une piperade. Cependant, cette foi qui m'est étrangère, je vais faire un effort et essayer un bon coup de me la cloquer dans le citron. Je demande qu'à apprendre. De plus, je maintiendrai les garanties de mes prédécesseurs aux réformés. Ils n'ont pas besoin d'avoir le traxir de finir comme des marrons sur le cul rouge d'une poêle trouée. » On peut voir ici que ce fin stratège ne se mettait pas que les gonzesses dans la fouille. Le duc de Mayenne va se morfler une sanglante déculottée à Arques le 21 septembre 1589. Et puis, comme il n'avait pas pigé, le 14 mars suivant, encore une belle mandale sur la poire, à la fameuse bataille d'Ivry. Henri lui fait bouffer son chapeau à plumes en lui disant « Ventre Saint-Gris, mon gars, t'avais qu'à faire comme les autres, fallait te rallier à mon panache blanc. » Malgré le tabac qu'il fait partout, Henri n'est toujours pas roi de France. Il n'a encore pas pu s'embourber Paris. Et la France sans Paris, c'est comme un gigot froid sans moutarde, disait-il amèrement. Il prend un bide devant la capitale, ravitaillé par les espingouins du duc de Parme. Au bout de 4 mois de siège, il en a ras la barboteuse et se tire la queue entre les jambes. Et note de l'auteur, si on croit la légende, ça devait le gêner. En janvier 1591, par ruse, il envoie les assiégeants déguisés en meuniers qui se font virer à coups de pompe dans les noix. C'est la fameuse journée des farines, où Riton, le premier, s'y est fait rouler. Finalement, il va de bide en bide. Il finit par entraver que s'il ne se décide pas d'abjurer de rechef, mais cette fois solennellement, abjurer sa foi, sinon, sa couronne, il l'aura jamais. Les croquants en ont ras le fion des guerres ruineuses, des impôts écrasants et de tout le toutim, mais ils veulent un roi catho. Gabrielle d'Estrée, la belle Gabi, insiste lourdement pour que son Riton abjure enfin un bon coup. Elle se voit d'ailleurs assez bien avec une couronne sur le cassis. « Vas-y, mon Riquet, lui dit,
Nos cochoncetés, on les fera plus dans le péché, désormais. On dira tout à Dieu, au vrai, à celui des cathos. Et il nous pardonnera cette bonne blague. Il manquerait plus que ça, avec tout ce qu'on a fait pour lui. »
Avant d'abjurer pour la seconde fois, Henri avait envoyé une bafouille à la belle Gabrielle.
« Ma belle Gabrielle, c'est demain que je fais le saut périlleux. »
Plus loin, évoquant les évêques, il ajoute « Ces gens-là m'ennuient. » Comme le remarque si justement ce bon vieil athée de Voltaire, « Ces paroles sont-elles d'un bon catéchumène ?»
Finalement, apparemment convaincu par tous, Riquet s'agenouille. Il tombe humblement sur ses rotules. Il jure devant la face du Dieu Tout-Puissant de vivre et mourir en la religion catholique, de la protéger et défendre encore et contre tous au péril de son sang et de sa vie, renonçant à toutes les hérésies contraires.
Ses potes ont du mal à le croire,
voire à le suivre. Ce baratin, il l'a déjà débagoulé devant feu Charles IX et cette vieille araignée de Catherine de Médicis.
Le pape n'y croit lui aussi qu'à moitié, après avoir été échaudé une première fois.
Mais son éminence, qui n'y va que d'une fesse, le sacre est toutefois célébré à Chartres le 25 février 1514. Paris ouvre enfin toute grande ses portes à Henri le 22 mars suivant. Le tenace duc de Mayenne, qui pige vite si on lui explique longtemps, déguste une ultime avoinée en Bourgogne, à Fontaine Française, le 3 juin 1595. En mars 98, le coriace duc de Mercœur, farouche ligueur replié en Bretagne, s'écrase enfin mollement. Le 2 mai suivant, le traité de Vervins ramène la paix entre les Français et les Espingouins qui se mettent à guincher partout ensemble flamenco et java. C'est alors que Riton fit l'un de ses plus beaux coups. Il signa l'édit de Nantes en 1598, par lequel catholiques et huguenots devaient arrêter enfin de se saccager le pif. Il mécontenta bien sûr les deux parties. Le bon roi Henri devint alors Henri le mal-aimé. Comme quoi on ne peut jamais contenter tout le monde et son père. Heureusement, il avait deux conseillers des meilleurs, qui étaient loin d'avoir du mou de veau sous le plumet, Duplessis Mornay et le duc de Sully. Bien avant que les paysans n'embouteillassent la capitale avec leurs tracteurs, Sully allégea fortement leurs impôts et déclara tout net que labourage et pâturage étaient les deux mamelles de la France. Et toc, un bon point pour Riton. Ce futé de Sully réussit même à faire payer un impôt à l'Église, oui, oui, ce qui tenait du miracle. Il piqua de même un max de blé aux officiers royaux qui voulaient transmettre leurs charges à leurs descendants. Avec un nouvel impôt, qu'il appela la Paulette. Résultat, prospérité. On bâtit à Paris le Pont-Neuf, la place des Vosges, cette merveille, et l'hôpital Saint-Louis. Ça vaut largement l'Arche de la Défense. Le premier mariage de Henri fut annulé. Ça collait pas du tout avec Margot, qui avait un nid de frelons sous le vertugadin, c'est-à-dire la crénoline, et une fâcheuse tendance à l'occasion d'appliquer les vieilles leçons de Messaline. Il l'épousa l'Italienne Marie de Médicis, dont le principal mérite fut d'avoir ramené dans sa corbeille de mariage 10 kilos de faillot d'Italie, les fagioli, pour faire des cassoulets à son mec. Elle lui tricota aussi un beau lardon qui devint plus tard Louis XIII et qui eut lui aussi sa page d'histoire, faut bien dire. Infatigable sur l'oreiller, Riton, toujours insatisfait, y faisait se succéder des maîtresses plus volcaniques les unes que les autres. Toutes adoraient l'osier et les colifichets qui mettaient le pays dans la mouscaille. La dernière fut Charlotte des Essarts, dite Lolotte les doigts fins,
pour qui le bon Riquet faisait les pires des folies, ce qui avait le don de foutre la reine en pétard, et le pays y tout. Le 14 mai 1610, un obscur petit greffier de tribunal allait devenir célèbre à tout jamais. Il amplifia du coup considérablement la gloire de celui qu'il allait assassiner. Il s'appelait François Ravaillac, avait un laguiol bien aiguisé et s'en servit allègrement contre le bon roi Henri, qui, pour son malheur, n'avait, lui, que de mauvais chirurgiens et pas encore d'antibiotiques dans son armoire à pharmacie.
On va redevenir sérieux. On va se demander qui était un personnage pas vraiment, vraiment amusant, mais qui a eu une très grosse importance dans notre histoire. J'ai nommé Armand-Jean Duplessis, cardinal de Richelieu. Richelieu dit Riri pour sa bonne, allez savoir pourquoi. Richelieu était le plus génial, foucu de tous les Fauderches que la terre ait connus. Fils de François Duplessis de Richelieu, grand prévôt, et capitaine des gardes de Henri III et de Henri IV, Armand a un pied dans la noblesse, l'autre dans la bourgeoisie. C'est là où ça porte bonheur. L'essentiel, disait-il, à propos de ces nougats, c'est qu'il vous mène à la bonne porte. Sa noblesse lui venait de sa grand-maman paternelle, Françoise de Rochechouart, qui, à défaut de château, lui avait légué sa fierté. Il avoua un jour, en confession, qu'il aurait préféré le château. Du côté de sa maman, les Laporte étaient des bourgeois robins, dont toutes les langues de pute d'alors prétendaient que de père en fils, ils avaient été portiers d'un conseiller au Parlement. D'où la soif des honneurs et l'esprit vicelard, si répandu chez ces gens-là. Les bourgeois Laporte, eux, étaient pleins aux as. Malheureusement, question de blason, ça tenait plutôt de la grille d'égout. Les Richelieu, de leur côté, avaient plein de noblesse, mais pas un fifrelin. Hélas, pour eux, la vinaigrette manquait d'huile. Redorer son blason au miroir paraît un peu justos pour papa Richelieu. Il demande à Henri IV que les bénéfices de l'évêché de Luçon aillent directo dans la fouille de son deuxième lardon, Alphonse. Car Alphonse, qu'on appelle couramment l'évêque de Luçon depuis l'âge de 12 ans, sans que cela le fasse rigoler, Alphonse est tombé carrément la tête la première dans le bénitier. Voilà Tipa, qu'après une indigestion de graines de chapelet, il devient mystique comme un boisseau de punaise. Il se fait plus humble qu'une crotte de souris dans la poche d'un clodo, refuse qu'on lui cloque la mitre épiscopale sur la calebasse et se retire chez les Chartres. En bonne bourgeoise qu'elle est, Madame de Richelieu, seule survivante du ménage, gamberge qu'il vaudrait mieux, dans ces cas, transférer les bénéfices de l'évêché sur la tête d'Armand Duplessis de Richelieu, dit Riri pour sa bonne. Et reconnu par tous comme Armand le Fauderche. Dès lors, ce bon petit Armand, qui lui était destiné à l'épée sous le blase du marquis de Chillon, va se retrouver le pif en plein dans le dogme et la faculté de théologie de son quartier. S'il veut devenir à son tour évêque de Luçon, à la place de son frelot, qui voit à présent un ange derrière chaque toile d'araignée, il a intérêt à mettre les bouchées doubles. Il bûche la casuistique et le thomisme comme un forcené. D'abord chez Pigier, où ça va plus vite, ensuite chez les Curtons Luçonnais, avec lesquels il tape le carton tous les soirs en jurant uniquement en latin. Surdoué comme il est, Riri avance très vite. Il a intérêt à faire fissa, car les chanoines de l'évêché en ont ras la bure que leur tôle soit en manque de capitaine.
pistonné parce que brillant, Armand, en deux coups les gros, franchit les degrés canoniques qui doivent un jour lui visser la mitre sur le citron. Il va même aller trouver le pape Paul V à Rome et lui dit « Mon cher Popol, une dispense de ta part enverrait sûrement mes burettes au plafond. Car ça me botterait vachement de faire l'évêque à Luçon. C'est un peu le fief de la famille et j'y ai encore ma réserve de vin blanc pour la messe. » Il antidate d'un an son acte de baptême et se fait donc sacré le 17 avril 1616 par le cardinal de Givry. Après coup, il avoue au pape qu'il venait de le rouler dans l'eau bénite, vu qu'il n'avait pas encore l'âge d'être évêque. Ce dernier prit la chose en se marrant, mais déclara à ses potes cardinaux en lousdé « Ce garçon sera un grand fourbe. » Dieu sait s'il était expert, le Popol, dans ce domaine. Quand on connaît la carrière de Richelieu, comme je m'en vais vous la ripolliner, vous verrez que la prophétie de Popol V était plutôt subtile. Car monsieur de Luçon se dépense comme une bête et s'agite comme un beau diable en arrivant dans son diocèse. Il reprend en main l'administration qui se casse la gueule. Il s'attaque vaillamment au problème. Il a pourtant une constitution physique vachement fragile. Il a une échelle de pompier en guise de poitrine, posée sur les deux canons de flamants roses, poilus comme des aiguilles à tricoter. Sa margoulette est triangulaire, une vraie portion de quart de brie, avec la pointe en bas. On y a laissé pousser, au-dessous, une barbichette, taillée en pointe elle aussi, surmontée d'une paire de charmeuses qui n'ont pas vraiment l'air de charmer grand monde. Car il est d'abord craint, le Riri. Il se marre chaque fois qu'il reçoit un crucifix d'un kilo sur le pied. Et Jésus ne se manifeste pas tous les jours. C'est un extraordinaire stratège politique, doublé d'un magouilleur de première. Il bosse à l'amélioration de son duché nuit et jour. Il va, il vient, plus fébrile qu'une belette dans un élevage de poussins. Il a une manière bien à lui de se mettre tout le monde dans la fouille. D'apparence fragile comme un œuf à la coque dans la paluche d'un manifestant, il a pourtant l'air de bien encaisser le froid, l'humidité, la neige et la boue, des marécages de cette région pourrie. Il veut se faire prendre pour un saint. En fait, c'est un sacré petit futé. Il encourage les missions des Capucins par de bonnes paroles. Il soulage les misères. Il essaie de convertir les protestants qui se tordent de rire. En fait, tout ça, c'est du grand pipeau. La petite ville de Luçon et son duché Rikiki commencent de lui embouteiller la voie du Seigneur. Il est plus ambitieux que ça. Lui, il ne rêve pas de nénette au cul sublime, les rotules sur un prie-dieu, non, ça c'est pas son truc. Son pied à lui, le petit évêque de Luçon, c'est la puissance. Les richesses, le blé, le pouvoir, ah ça oui, ça le fait goder. En fait, il est mondain comme une marquise, et son vrai rêve, c'est de pointer un jour son blaire à la cour. Il guette les occases, les curtons qui doivent se réunir en assemblée générale à Paname en 1610 vont lui en donner une. Richelieu, aussi genou finalement qu'il est ambitieux, il n'a que 24 balais, fonce à Bordeaux sur son meilleur mulet. Là, il va faire sa première connerie. Bien sûr, ça lui servira de leçon. Car cette pomme à l'eau est allée à Bordeaux pour y rencontrer l'archipointu Sourdis, à qui il demande de soutenir à la cour sa candidature de représentant de leur province commune. « Au secours, pauvre Coquelet de Riri !» À cette époque-là, note le comte de Saint-Aulaire, Richelieu est dans cet âge ingrat de l'ambitieux qui a déjà assez de prestige pour porter ombrage, mais pas assez pour s'imposer. Sourdis s'est présenté bien sûr à la place de Riri, le dégourdi, et que bien sûr il a été élu. La tronche de Richelieu, je vous dis pas.
Humilié.
Il a toutefois assez de choux pour se rendre compte de ses gourances et il est aussi suffisamment ficelle pour les réparer. Bref, malgré son génie prématuré, il ne peut jongler avec 3 balles à la fois tout en égrenant son chapelet. Sa précipitation lui filera bien d'autres fois le blaire dans la mouscaille. Il engrangeait d'ores et déjà les ronds de gens, les courbettes et les bons mots. Ça pouvait toujours servir quand il tortillerait du fion chez les emperruqués. Sa deuxième occasion, il ne l'attend pas longtemps. En 1610, comme vous le savez, le bon roi Riton IV se laisse bêtement ouvrir une mortelle boutonnière dans le buffet par l'ignoble Ravaillac, qui sera écartelé comme un lapin par une moissonneuse batteuse. La greluche de feu Henri, Marie de Médicis, proclamée régente, ne touche pas une bille. Elle va se faire phagocyter illico presto par 2 de ses compatriotes qu'elle a ramenés d'Italie dans sa corbeille de mariage. Il s'agit des Consigny, Consigny et sa redoutable épouse, la Galigaille. Tous 2 rayent les parquets du Louvre tellement longues sont leurs quenottes. En moins de temps qu'il n'en faut à un coq pour devenir chapon, la cour est un vrai nid de morbac. Richelieu se frotte les mimines. Riri se pointe au Louvre quelques jours plus tard. Sully est à la baisse. Les Consigny, eux, grimpent comme le thermomètre au cul d'un dragon. On permet à Richelieu de faire antichambre. On esbourde même ses offres de service d'une oreille distraite, mais pas tout à fait indifférente. Il rejoint son prieuré de Cousset, en Poitou, et reste attentif aux propos de son frangin, Henri, n'ignorant pas les idées ultramondaines de Marie de Médicis, Riri faillote un max, afin que les échos de son anti-gallicanisme outrancier parviennent jusqu'aux bienveillantes étiquettes de la régente. On fait savoir à ce jeune homme qu'on prend bonne note de son numéro de lèche. Riri n'a encore que 25 piges, mais il veut toujours becqueter le beurre avant de l'avoir étalé sur la tartine. Il prononce alors un serment de totale allégeance politique. Il explique qu'il en a ras les couettes des vieux schnocks du gouvernement de feu Henri IV et il mise à fond sur les Consigny. Bon placement dans l'immédiat pour brouter du galon. Il se fait des potes dans la place qui lui fileront un coup de pouce quand la soupe sera prête. On le convoque aux états généraux. Il se prépare à s'y faire élire. En août 1614, il devient député de Poitiers, de Luçon et de Maizet. Bon poste, stable, bonne paye. Mois double en fin d'année. Il se fait transpirer un bon coup la soutane et se met la noblesse dans la fouille. Marie de Médicis, vachement joisse d'avoir avec elle un gus qui en a sous la chasuble, le désigne alors comme orateur du clergé à la séance de clôture. N'attendant que ça, il débagoule un discours qui est un pur chef-d'œuvre. Sans avoir l'air d'y toucher, il beurre même la galetouse des protestants. Tout le monde le trouve génial. Dans le parti au pouvoir, c'est désormais une flèche. On lui demande de raisonner Condé, qu'on a dû enfermer à la Bastille. Pour le récompenser de ce vertigineux faillotage, on le nomme membre du conseil. Il devient aussi aumônier de la jeune reine, puis secrétaire des commandements de la reine-mère et enfin secrétaire d'État à la guerre et aux affaires étrangères en novembre 1616. Riri a 30 piges. Dès cette époque, y gamberge, ce qui arrangerait bien les affaires de la France si on se rabibochait avec les princes protestants contre l'Empire. Il n'ose pourtant pas en jacter avec la régente qui ne jure, elle, que par les Habsbourg. Il juge plus prudent de s'écraser, craignant, s'il contrarie la grosse, de se retrouver abbé dans son bled en train de confesser la pharmacienne et le garde champêtre. Expliquant alors sa propre tactique politique, il prétendait gagner le but en lui tournant le dos comme les rameurs. Malgré cette prudence étalée qui le fait frétiller du croupion, il roule encore une fois un peu trop les mécaniques au lieu de manœuvrer en lousdé. Il va se planter de nouveau un coup en ramenant trop sa fraise dans le conflit glandilleux entre l'Italie du Nord et la Valteline. Il prend un bide retentissant. L'Espagne fumasse, interrompt ses importations de camembert, et Venise, notre meilleur allié jusque-là, nous fait savoir qu'elle en a gros sur la gondole et qu'elle lâche les rames. Réry, cette fois-ci encore, a sous-estimé l'adversaire. Ça ne fait rien, ça lui mettra du plomb sous la calotte. Il lui faut rebecter de même une autre planterie, de taille celle-là. Lui, si prudent, si prévoyant et si manœuvrier, n'a misé un copec sur le jeune roi Louis XIII, qui attendait patiemment que sa mère tombe de vélo. Bien sûr, ce jour béni arrive. En 1617, Loulou, en a classe d'être mise au piquet par Marie, qui est censée être sa mère aimante. Il goupille un petit complot et fait proprement étriper Consigny par Vitry, son capitaine des gardes. La reine-mère en reste sur le cul. Elle éclate en sanglots, se roule par terre et baise les ripatons du roi qui la vire au château de Blois. Richelieu en a gros sur la tonsure. Il s'est fait piéger comme un novice. Il aurait dû renifler depuis longtemps que cette pétasse de Rital pouvait pas saquer son lardon. Que faire à présent qu'il a paumé son job? Il va suivre la Marie, c'te bonne père. Une fois à Blois, il va essayer d'arranger le mastic entre Loulou et sa dabe. Avec tout le gringue qu'il a fait à Luynes avant de lever le camp, y gamberge qu'il a ses chances de recoller les morceaux. Le petit Louis le voit venir avec ses gros sabots. Il lui fait le coup du mépris et le renvoie gentiment mâchouiller son pain béni. Mais par la suite, une méchante rumeur de complot fout carrément le roi en renault. Et ce dernier jure sur sa dernière arquebuse qu'il va faire becter sa soutane à ce curton d'opérette qu'il soupçonne fortement. Réry a soudain les foies et va se planquer dans son évêché à l'ombre du petit Jésus. Désormais, Richelieu a les patates au fond du filet. Le mieux, c'est de s'écraser. En attendant que la côte remonte, pour se consoler, il pond un chef-d'œuvre inoubliable, une controverse sur les protestants intitulée « Principaux points de la foi de l'Église catholique » qu'il dédie à Louis XIII. Le bouquin fait un malheur au top des librairies et sa foule Luynes en pétard. Il y voit encore un complot et Réry aura de nouveau un coup de chaleur dans la barbichette. Obligé de se tirer, fissa, Riri se retrouve planqué à Avignon. Là, il a encore un fion pas croyable. Il reçoit quelques jours plus tard, en chronoposte, une bafouille du roi lui ordonnant de rejoindre sa vieille qui fait à présent de la tapisserie à Angoulême. Il déhote aussitôt et refoule le grappin sur la Marie. Il va ensuite magouiller de nouveau un max pour offrir au roi, sur un plateau, la paix d'Angoulême en 1619 et celle d'Angers qui la confirme en 1620. Après ce fabuleux coup inattendu, on lui promet le galure de cardinal.
Mais quand ?
Luyn, qui voit en lui un rival, Vislard, n'est sûrement pas en train d'astiquer l'anneau tant rêvé. Pendant 2 ans, le rusé et patient Armand du Plessis de Richelieu, d'Iriri pour sa bonne, va ronger son scapulaire dans l'ombre des jupons de la reine-mère. Marie, on le sait, milite à fond le crucifix dans le clan des ultra-cathos et des pro-espingouins. Riri, lui, c'est pas vraiment sa tasse de tisane. C'est pourtant dans celle-là qu'il va boire, puisque Luyn, soutenu par le roi, lui balance des os de mouton dans ses roues de bicyclette. Il fait encore un tel numéro de fauderche que même le pape Grégoire XV tombe dans le panneau. Le 5 septembre 1622, il nomme Armand du Plessis cardinal de Richelieu. Pour fêter l'événement, Riri s'envoie coup sur coup 2 calices de vin blanc et dans le dos de la Marie qui roucoule sous sa lèche, il goupille un compromis avec les protestants. Il espère bien leur intervention efficace contre les Habsbourg en Valteline. La grosse Italienne, elle, s'est fait rouler dans le parmesan et n'y a vu que du feu. De plus, le cardinal s'est mis les ministres dans la fouille pour mieux leur faire porter le galure. Il magouille pour lui à fond les manettes pour faire lourder du conseil tous ceux qui suivent pas l'évangile de Riri. Le roi, qui en a ras la moumoute de ce piranha en robe rouge, veut le nommer ambassadeur à Rome. Marie de Médicis, qui ne s'est toujours pas aperçue que Riri se paye sa fiole, hurle au charron. Elle fait déchaîner les libellistes qui prennent les patins d'Armand. Le 29 avril 1624, Louis, que tout ça finit par gonfler, baisse la crête et Richelieu est enfin admis au conseil. Le surintendant, la Vieuville, va payer les coups tordus que lui a fait faire Armand, qui dit au roi « Voyez, sire, ce la Vieuville est un mauvais. Qu'est-ce que je vous avais dit ?» Le malheureux surintendant se fait lourder et Richelieu, qui lui pique la place, se retrouve chef du conseil. Ça fait bien tartir le roi, mais il reconnaît quand même que ce fin salopard lui sera utile si l'ordre du royaume est à ce prix. De son côté, Riri reconnaît que le roi est une âme noble, esclave du devoir monarchique. Ça lui botte pas des masses que Louis soit totalement imperméable à la lèche, mais il y en a tellement d'autres qui aiment ça qu'il réservera sa salive pour eux. C'est tout de même grâce à Riri que la France va doucettement se remettre sur ses cannes, momentanément. Richelieu, une truelle à la main droite, rebecta tant bien que mal son pays. Pour ce faire, il négociera toute sa vie avec les Espingouins, les Rosbif, les Huguenots, qui lui foutent le schtroumpf dans le Midi, et les Italiens du Nord, qui se plaignent pour un oui ou pour un non de manquer de sauce tomate dans leurs spaghettis. S'il rebâtit de la main droite, dans la paluche gauche, il a un rabot et il arrondit les angles. Parfois, bien sûr, il est obligé de chabler dans le tas. Dans la Valteline, vallée des Alpes italiennes, où cathos et protestants se fritent à mort depuis toujours, ça repart, à fond le carnage. Riri fait enrôler 3 000 protestants et il neutralise le bled en amenant 200 barriques de Chianti et tout le monde est content. C'est surtout les guerres de religion qui iront à la castagne sous le règne de Louis XIII. Et ce pauvre loulou ne pourra jamais finir sa partie de bridge avec le cardinal sans qu'un messager se pointe à toute pompe en disant « Désolé, mes seigneurs, mais les Rosbif attaquent la Rochelle. Faudrait voir à vous manier le pot. » Richelieu, lui, pas dégonflé, monte une expédition et se taille au pays des célèbres filles de là-bas. Les protestants ont ouvert en Rosbif la région entre La Rochelle, Ré et Oléron. Réry te les vire, tout comme des malpropres. La plupart d'entre eux se rendent en disant « On l'a dans l'os, on se casse ». Et les troupes royales repoussent les autres jusque dans les Cévennes à grands coups de pompe dans le Pétrous. C'est la première grande victoire de mon règne, constatera Loulou, en tirant affectueusement sur la barbichette à Riri. Ils signeront l'édit de grâce d'Alais en juin 1629, sorte de second édit de Nantes qui permettra pendant un demi-siècle aux cathos et aux protestants de ne plus se bouffer le tarin. Jusqu'à ce que Louis XIV refoute tout par terre en révoquant l'édit de Nantes, à partir duquel protestants et cathos vont de nouveau s'étriper. Pendant ce temps, bien entendu, les grands en ont profité pour vérouler le pays. La haute noblesse déclare qu'elle s'assied sur les édits royaux. En 1626, Riri, n'y allant pas avec le dos de la louche, avait pondu un édit exigeant les destructions des châteaux jugés inutiles à la défense du territoire. Il avait même fait zigouiller Montmorency-Bouteville, qui s'était chicorné en duel malgré un édit du conseil les interdisant. Toute la noblesse furibarde, Gaston d'Orléans en tête, complote alors contre ce pauvre Riri à coups de surin, de poison, dans ses hosties et d'embuscades heureusement loupées. Ils essayeront, des années durant, de rectifier proprement ce cardinal qui entravait rien à la noblesse. Malgré toutes les réformes pendues au conseil, c'est un joyeux bordel dans tout le pays. Riri instaure la dictature. Il a salement besoin de montrer qui est le taulier de la France, car en Italie du Nord se prépare un autre coup de torchon, semblable à celui de la Valteline. Les espingouins sont encore allés balancer une décoction de paella sur la tronche d'Hérital, qui la trouve saumâtre et demande un coup de paluche, vu qu'on a des intérêts là-bas dans les mines de Provolone. Pour gouverner le pays contre les Espagnols, Riri appuie la candidature de son pote, le duc de Nevers. La reine-mère, elle, toujours, soutient les joueurs de castagnette. Elle est vachement hostile à l'intervention armée. Le futé Riri déclare alors qu'il y va de l'honneur du roi. On part donc au casse-pipe, musique en tête. Loulou grimpe au mât de sa gloire. Au pas de Suse, il morfe un coup d'épée dans les meules. Mais il est vachement content quand même. Riri lui fait des compresses et désormais, devenus presque potes, ils font tous les soirs une partie de morpion avant de se mettre les jambons dans la toile. Ils glanent encore d'autres victoires qui leur seront bien utiles, notamment avec le roi de Suède, un loubard qu'il faut avoir à l'œil. La réussite de Riri, encore une fois, a carrément fait gerber l'opposition qui s'est trouvée désormais un chef. La Marie. Mais oui, la grosse est fumasse. Elle a mis du temps à piger que son protégé n'était en fait qu'un faux cul intégral, qui, depuis tout le temps, la baladait comme une cocotte en papier sur le bureau d'un PDG. Elle vient d'entraver que l'attitude anti-espingouine du cardinal n'était pas du tout une diversion comme il le lui avait fait gober. Elle l'affuble d'un tas de noms d'oiseaux, dont l'ingrat et le valet, ce qui n'empêche pas Riri de triompher le 11 novembre 1630 à la fameuse journée des dupes. La Marie et ses potes ont enfin ouvert les calots sur la sincérité des sentiments qu'il avait fait semblant d'afficher. À présent, Marie, flanquée de l'incontournable Gaston d'Orléans et d'Anne d'Autriche, va mitonner allègrement de nouvelles cabales tous azimuts contre Riri et Loulou XIII. Le roi en a ras l'arquebuse de ces petits cons de nobles qui l'empêchent de faire correctement son yoga. En 1631 et 32, Riri et Loulou foutent la branlée à ces logdus de duc de Lorraine et de gouverneur de Languedoc, Henri de Montmorency, qui viennent leur becter dans la paluche. Malgré ça, les coups fourrés continuent. Riri, en pétard pour de bon, demande à Loulou et aux tribunaux une répression exceptionnelle. Il fait alors serrer le colbac de Montmorency et du maréchal de Marcillac, qui eut bien du mal à avaler les raisons de leur disgrâce. Ce pauvre Riri se fera alors traiter d'homme rouge qui trempe sa barbichette dans le sang de la tyrannie. Faut dire qu'à ce moment, Loulou XIII a les cannes flageolantes et des gargouillis inquiétants dans les soufflets. Va-t-il lâcher la rampe? Le Gaston et les nobles à raisin bleu, le sang bleu, bien sûr. Le Gaston et les nobles à raisin bleu n'attendent que ça. Ils se déchaînent doublement contre Riri, qui, aidé de ses deux étrangleurs préférés, la Fémasse et l'Aubardemont, étouffe sous l'édredon tous ces nobles désobéissants. Si l'éminentissime Riri échappe à tous les attentats de ces malfrats poudrés, c'est grâce au service d'espionnage, à côté duquel le Mossad israélien et Mata Hari réunis auraient fait figure de louveteau de patronage. Chaque fois qu'il se rend au Gog, Riri est entouré de 120 chevaux légers, 100 gendarmes et 200 mousquetaires. Bien qu'il soit mieux gardé que le trésor royal, c'est pas du millefeuille pour lui d'aller tranquillement lever la patte. S'il n'y laisse pas la peau, souligne l'excellent dictionnaire d'histoire de France, Perrin, s'il n'y laisse pas la peau, c'est grâce à cette chance extraordinaire des dictateurs qui croient à leur mission. Dès 1636 à 1641, il aura une chier de complots sur le rable, dont celui de Soissons, jusqu'à la conspiration dite de 5 mars, encore un traître, en 1642. Il aura dû se farcir une kyrielle de conflits et de guerres, entre autres avec la Ligue protestante qui prend une raclée à Nordlingen en 1634. Et c'est le début de la guerre de 30 ans. D'abord avec les Espingouins, les revoilà, mais le soulèvement de la Catalogne en 1640 permet à Riri de récupérer les Caroubles du Roussillon. « Sire, dit-il à son roi, vos armes sont dans le Perpignan et vos ennemis ont péri. Vous pouvez y becter un civet de langouste arrosé d'une rouille de corbière. Ça vous rafistolera les éponges. » C'est vrai que depuis belle lurette, le pauvre Loulou dépense une fortune chez les Toubibs. De plus, avec sa polka, Anne d'Autriche, c'était pas le Nirvana. Marida, très tôt, tous les deux, ils devaient avoir autour de 13 piges, la mignonne l'avait trouvé saumâtre de se faire enjamber en sortant du berceau, et bien sûr, elle raffolait pas l'herche de la clarinette magique. Il n'avait jamais eu de lardon, et ça, Louis XIII, ça lui filait un bourdon terrible. Voilà-t-il pas, pourtant, qu'un beau jour de 1638, peut-être avec l'effet bienfaisant d'une choucroute au Riesling mitonnée par sa bourgeoise, Louis lui moule enfin un super lardon, qui pointe son blaire en disant « Voilà, c'est moi Louis XIV !» Fou de bonheur de voir que ça a marché, son papa ressaute alors dans le pajot l'année suivante et c'est Philippe qui sort de l'œuf en 1640. Riri et Loulou XIII, appelés Louis le Juste par son peuple bien-aimé, ont surveillé la tambouille des Français pendant 18 piges ensemble. Ce ne fut pas toujours de la nougatine, mais même si on a charrié un peu ce cardinal Puceau, il a mouillé plus d'une fois la soutane pour son pays, à défaut de l'avoir fait pour autre chose. Il a filé de sérieux coups de paluche à la marine militaire et marchande, aux manufactures, à la soie, à la tapisserie et à des flopées d'autres encore. Sur le plan Grisby, il a laissé les caisses de l'État aussi vides que les bourses à Don Juan à la sortie du Biblos de Saint-Trope. Par contre, son compte en banque, à lui, après sa mort, était bourré comme un teuton qui a passé la nuit à la kermesse de la bière. Armand Duplessis de Richelieu dit riri pour sa bonne, cassa finalement sa tirelire le 4 décembre 1642. Il joua un rôle déterminant dans la fondation de l'Académie. On peut écluser un godet à sa mémoire. 5 mois plus tard, Loulou avala son sceptre à son tour. Nul ne put le faire changer d'avis, car il disait lui-même « Je vous laisse un chiard qui sera le plus grand roi du monde. Et puis, depuis que Réré est mort, avec qui voulez-vous que je joue au morpion ?» Voilà, maintenant vous n'avez plus qu'à vous acheter un dictionnaire de la langue verte. Parce que si je vous traduisais chaque mot d'argot, eh ben on sera encore là demain matin. Alors j'espère vous avoir fait sourire un petit peu. Et puis je reviendrai à ce bouquin fantastique, Les grandes pointures de l'histoire, donc de Pierre Perret, édité au Cherche Midi. On se fera une merveille de Pierre Perret, chaque fois qu'on aura besoin de sourire un peu. Il risque d'y avoir quelques occasions. Mais heureusement qu'on a Pierrot. Prenez soin de vous. À bientôt.